Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va pas juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI à 0,16 TTC proposés par le CNDA à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Emmanuel Martin, professeur d'économie en prépa à Rouen, et tous les lundis, je décortique avec vous un sujet d'économie. Aujourd'hui, on va parler de jeux vidéo, de niche fiscale et de Georg Simmel. Le mois dernier, vous avez travaillé ? Alors il y a déjà 4 chances sur 5 pour que votre revenu ait déjà été déclaré au fisc par votre employeur. Vous avez acheté des biens de consommation ? Alors vous avez payé 20% de TVA sans même le demander. Vous avez fait le plein pour votre voiture, acheté un paquet de cigarettes, consommé de l'alcool dans un bar. Dans tous les cas, vous avez payé des impôts. Et toutes ces recettes fiscales pour l'État ou pour la sécurité sociale, ce sont des impôts prélevés de manière quasiment automatique. Autant dire que pour la plupart, les Français payent leurs impôts. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Oui, mais il reste tout de même des impôts qui sont déclarés, ou pas, par les contribuables qui devraient s'en acquitter. L'impôt sur le revenu, par exemple, fait l'objet d'une déclaration, et même si elle est pré-remplie, il faut souvent y ajouter des revenus supplémentaires ou retrancher des déductions et des abattements. De même pour l'impôt sur les successions, et même l'impôt sur les sociétés dont s'acquittent les entreprises. Donc, on peut oublier d'en déclarer une partie, ou même chercher sciemment à payer moins d'impôts, en utilisant à son propre bénéfice toutes les failles du système. Et puis, il y a des gens qui choisissent de frauder, c'est-à-dire de ne pas payer ce qu'ils devraient légalement. Autant dire qu'il y a tout un continuum de situations derrière notre sujet d'aujourd'hui. Depuis le commerçant qui a oublié de déclarer au bon moment une recette commerciale exceptionnelle, jusqu'au gangster qui gagne sa vie en vendant de la drogue et vit en marge de l'administration fiscale. En passant par les stratégies d'optimisation qui ne sont pas illégales, mais qui permettent à des foyers bien conseillés d'échapper à l'impôt. C'est ce que m'a expliqué Camille Erlin-Giret, chargée de recherche au CNRS et autrice d'un petit livre au titre programmatique « Rester riche ».
C'est un terme avec lequel on prend un peu notre distance, parce qu'il reconduit en fait une frontière entre pratiques légales et pratiques illégales d'évitement de l'impôt. Et du coup, ça conduit à regarder uniquement certaines pratiques de contournement et à oublier un spectre bien plus large sur lequel on est plusieurs sociologues, politistes, à avoir un peu porté l'attention. Bon, je pense qu'on pense, quand on a la fraude en tête et des pratiques illégales, on pense à des choses qui sont assez franches, assez nettes. Par exemple, un commerçant ou une commerçante qui ne déclare pas une partie de son chiffre d'affaires ou si vous cédez une partie des titres de votre société, pareil, vous ne déclarez pas une plus-value. Pareil pour un compte qui serait détenu à l'étranger. Souvent, c'est des affaires qui sont médiatisées. Donc, on est sur de l'omission. Et il ne s'agit pas du tout de dire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, en tant que chercheur, on estime que c'est une toute petite partie et pas forcément la plus élaborée de ce qu'on peut appeler les pratiques de contournement de l'impôt.
Aujourd'hui, on va donc se pencher sur les personnes qui cherchent à contourner l'impôt et pas seulement sur les gangsters. Qui sont-ils ? Des gens sans aucune morale ? Des ménages riches qui ont encore plus intérêt que les autres ? Ou des experts et des expertes de la fiscalité capables de faire des montages financiers compliqués ? Comment éviter facilement l'impôt ? D'abord, il faut commencer par dire que la grande majorité des contribuables payent leurs impôts. C'est ce que montrent les recherches en économie, notamment celles de Nicolas Jacquemet, Stéphane Lucchini et Antoine Malézieux, dont on va reparler. Mais dans le même temps, les syndicalistes sud de l'administration fiscale, qui sont plutôt bien placés pour l'évaluer, évaluent le manque à gagner à 80 voire 100 milliards d'euros en 2017. Si on regarde un peu dans le détail, en 2015, parmi les 17 millions de foyers fiscaux qui ont payé l'impôt sur le revenu, 7 millions ont reçu une lettre de relance ou une mise en demeure de payer. Et pourtant, la même année, il n'y a eu que 450 actions de redressement de la part de la Direction générale des finances publiques. Et 1700 actions en justice seulement.
Don't try to be too smart. Pay taxes when you have to pay taxes. Don't go to heaven. Pay taxes.
Ça pose un gros problème aux économistes, ça. Si les sanctions sont aussi rares, comment se fait-il que tout le monde ne fasse pas le calcul rationnel qui consiste à ne pas déclarer ses impôts, ou au moins à n'en déclarer qu'une partie ? Après tout, si vous ne croisez presque jamais de contrôleur dans le bus, il y a des chances pour que vous ne payiez pas votre ticket. Eh, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous conseille pas de frauder. Ça paraît juste illogique. D'ailleurs, si on raisonne comme un microéconomiste un peu borné, plus vous êtes pauvre, plus un euro de votre revenu en moins est douloureux. On devrait donc voir une fraude massive, en particulier chez les classes populaires. Et ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut expliquer, c'est donc pourquoi les gens payent leurs impôts le plus souvent. Et pour ça, il va falloir quitter le domaine de la morale, qui est honnête ou malhonnête, et examiner la législation ainsi que la manière dont elle s'applique ou pas. D'abord, regardons comment ne pas payer beaucoup d'impôts grâce à la réglementation fiscale elle-même.
Aujourd'hui, on va voir comment structurer votre vie et vos business pour payer légalement et facilement 0% d'impôts.
Vous ne le savez peut-être pas si vous êtes étudiante ou salariée au SMIC, mais la loi française permet à beaucoup de foyers fiscaux d'échapper à une partie de l'impôt sur le revenu, mais aussi de l'impôt sur les successions. On en avait parlé l'an dernier dans Splash. Un stock de richesse, un patrimoine, c'est plus difficile à contrôler qu'un flux comme un revenu. Camille Alain Giray.
Quand on est profession libérale, on voit déjà, on a un moyen qui est peut-être un peu plus élaboré déjà, de jouer sur une frontière, qui est la frontière entre frais professionnels et frais privés. Quelque chose qu'on va pouvoir négocier, discuter avec l'administration fiscale. Et on voit déjà qu'il y a matière à faire des choses peut-être un petit peu plus élaborées. Mais donc là où les trois éléments que j'ai évoqués jouent à plein, donc à la fois des dispositifs légaux, les zones grises entre pratiques légales et illégales et le fait de s'affranchir de certaines règles par des montages qui sont extrêmement complexes et autour desquels ça va être difficile derrière pour l'administration de contrôler quoi que ce soit. On est bien sûr sur des volumes de patrimoine qui sont tout autres. Et là encore, on pourrait faire des distinctions. Par exemple, ce que je montre dans l'ouvrage, c'est qu'une grande partie des personnes qui étaient redevables de l'ISF et qui sont probablement redevables de l'IFI, comme c'est un impôt qui est déclaratif, qui est particulièrement compliqué à contrôler et sur lequel on a aussi mis moins de moyens de contrôle, et comme le patrimoine est sujet à des évolutions, de fait, il y a une pratique assez ancrée qui est de sous-évaluer ces biens, en l'occurrence souvent les biens immobiliers, dans son patrimoine. Et donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement partagé, quelles que soient vos opinions politiques, même votre rapport à l'impôt, qui peut être très consensuel. Vous pouvez avoir l'impression de payer d'ailleurs beaucoup d'ISF par ailleurs, etc. Et parfois, ça ne dérange pas les personnes que je rencontre d'ailleurs. Et pour autant, elles vont m'expliquer qu'elles vont sous-évaluer leur patrimoine.
L'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, a été aboli et remplacé par l'IFI. Impôt sur la fortune immobilière. Mais cette pratique de sous-déclaration du patrimoine immobilier ou professionnel n'a pas disparu. Mais on est déjà ici à la frontière de l'illégalité. Si vous estimez que votre résidence secondaire ne vaut qu'un million d'euros alors que vous pourriez la vendre trois fois plus cher, vous vous trompez peut-être de bonne foi, mais ça ne vous empêchera pas de subir un redressement le cas échéant. En revanche, il y a des cas où vous pouvez vous arranger avec la réglementation existante.
Pour vous donner un exemple simple, j'ai un peu travaillé sur l'histoire de l'ISF, qui est devenue maintenant l'IFI. Et il y avait une question qui était fortement discutée par les gestionnaires de patrimoine au tout début, qui était comment est-ce qu'on évalue sa résidence principale. Et aujourd'hui, c'est le cas encore quand vous êtes redevable de l'IFI, c'était le cas quand vous étiez redevable de l'ISF. Vous pouvez déduire 30% de la valeur de votre bien de l'assiette de l'impôt. Mais au départ, ce n'était pas précisé. Et donc, en fait, c'est notamment des gestionnaires de patrimoine qui ont conseillé à leurs clients et leurs clientes de ne pas évaluer de la même manière le bien immobilier qui leur sert de résidence principale et d'autres biens immobiliers. Et c'est toujours la même idée, c'est de dire, en fait, le droit ne précise pas ce point, mais on pourrait l'argumenter. Donc, on voit qu'on est sur des choses élaborées, puisque tout l'enjeu en fait de l'expertise sur la fiscalité, c'est de débusquer des zones grises. Là, j'ai pris exprès un exemple très simple, hein, qui est la manière dont on évalue sa résidence principale, pour que ce soit clair, et d'anticiper le fait que derrière, on va pouvoir nourrir un argumentaire juridique qui va faire tenir, si ce qu'on a fait est attaqué, faire tenir devant la justice, par exemple, ou devant l'administration fiscale, le montage qui a été réalisé. Et donc, de fait, ce qu'on voit finalement apparaître, c'est au fil des années 80-90, une jurisprudence et des actes de la Cour de cassation qui disent, de fait, effectivement, ça se tient de déclarer moins sa résidence principale. Et puis, on voit finalement que l'État intervient presque en dernier pour valider et mettre un montant en disant ça va être 30% finalement sur lesquels on s'accorde, parce que derrière, il y a une jurisprudence qui est déjà là et des montages qui sont, qui sont déjà là. Donc là, ce qui est intéressant finalement, c'est que des zones grises, vous pouvez toujours en trouver, vous pouvez en trouver beaucoup, et que l'expertise est un peu proactive là-dedans, et que du coup, l'État légifère, mais souvent après.
Cet exemple permet de comprendre que contourner l'impôt, sans même être dans l'illégalité, c'est le travail que font activement des professionnels. Ils connaissent par cœur la législation, la jurisprudence et les manières dont on peut s'arranger avec l'administration fiscale. C'était l'objet de la thèse de doctorat de Camille Rosingiret. Les gestionnaires de patrimoine, que l'on appelle aussi « family office », ce sont des spécialistes de la niche fiscale, des artistes de la sous-évaluation. Et dans le meilleur des cas, ou le pire, ils sont capables de faire intervenir leurs collègues avocats pour faire pièce à l'administration fiscale. Or, celle-ci n'a pas envie de perdre des années en procès compliqués et coûteux pour ne récupérer en définitive que quelques millions d'euros. C'est beaucoup pour un seul contribuable, mais très peu à l'échelle du budget de l'État. Donc elle laisse tomber, par avance, dans bien des cas, faute de moyens d'investigation.
Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que vous pouvez mettre en place un schéma qui en lui-même va être légal, par exemple une série de sociétés interposées, pour masquer finalement l'origine de l'argent et en tout cas introduire de la distance entre la personne qui est propriétaire d'un bien et sa propriété. Et derrière dire, bon, bah, le schéma en lui-même est difficilement attaquable. Et on sait très bien que c'est la porte ouverte derrière pour les personnes pour ne pas déclarer, parce que ça va être extrêmement compliqué pour l'administration de retracer tout le circuit. Le circuit en lui-même n'est pas forcément problématique, mais en fait, on sait que ce sont des circuits qui, de fait, ouvrent la porte à la non-déclaration. Et là, encore une fois, on n'est pas dans des choses qui sont hyper simples, comme je ne déclare pas un compte en Suisse, où maintenant, on a la possibilité davantage, je pense, pour l'administration, d'avoir l'information au bout d'un moment. Mais ça va être beaucoup plus compliqué si c'est un schéma un petit peu plus complexe.
En fait, les recherches de Camille Erlingiret, mais aussi celles d'Alexis Spire et de bien d'autres chercheurs et chercheuses, mettent en lumière un résultat que les services de Bercy connaissent bien. À force de multiplier les dispositifs d'allègement d'impôts et de cotisations sociales, on a fabriqué un système socio-fiscal très opaque, dans lequel des particuliers et des entreprises peuvent se sentir perdus, mais qui permet aussi à des acteurs bien conseillés de favoriser le contournement de l'impôt. Un peu comme un jeu vidéo dans lequel il y aurait des cheat codes bien cachés mais qui rendent le jeu bien plus facile.
Alors, pour donner un exemple sur les dispositifs légaux, ce qu'il faut avoir en tête, parce que on présente souvent le système fiscal français comme un système très progressif, avec des impôts forts, notamment l'imposition du capital dans les comparaisons européennes, ou quand on entend des économistes et des experts dans les médias, est présentée comme très forte. Mais en fait, ce qu'on compare, c'est souvent des barèmes. Donc, un certain nombre de tranches et des taux marginaux plus ou moins progressifs. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est la mise en place et la multiplication ces 20 et ces 10 dernières années plus particulièrement de dispositifs dérogatoires qu'on va appeler soit des dépenses fiscales, soit des niches fiscales, un ensemble de mécanismes qui fait que finalement, on peut utiliser l'image de la passoire, si vous voulez. C'est-à-dire que vous aviez peut-être un système et un mécanisme au départ qui était pensé comme très progressif, mais que comme on a introduit plein de moyens légaux de défiscaliser ou de faire sortir de l'assiette de l'impôt un certain nombre de choses, et ben au final, de façon tout à fait légale, vous pouvez aujourd'hui, par exemple, transmettre des sommes très importantes à vos enfants, sous couvert de plein de choses.
Vous employez un salarié à domicile ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez bénéficier d'un crédit d'impôt dans la limite d'un plafond de 15 000 euros. Vous faites des travaux dans un logement achevé depuis plus de 2 ans ? Bonne nouvelle ! Le taux de TVA est réduit. Vous placez votre épargne dans l'immobilier locatif en Outre-mer ? Bonne nouvelle ! La loi Pinel vous permet de réduire votre impôt sur le revenu de 32%. Tous ces dispositifs ont été introduits pour inciter les particuliers à créer des emplois, faire circuler leur épargne, consommer en France. Mais ce sont quelques milliards d'euros de recettes fiscales à chaque fois. Et encore, je ne vous ai cité ici que les plus connus qui s'appliquent aux particuliers. Pour les entreprises, c'est encore pire. Je vous parlerai une autre fois du crédit impôt recherche, un scandale qui coûte 6 milliards d'euros par an, sans aucune contrepartie à part remplir un papier qui dit que votre entreprise fait de la recherche. J'exagère à peine. Et tous les rapports qui se sont penchés dessus ont conclu qu'il était à la fois inefficace et bien trop coûteux. Vous imaginez le nombre de postes au CNRS qu'on pourrait ouvrir avec 6 milliards? Mais je m'égare. Revenons à nos contribuables. Pourquoi a-t-on multiplié ces niches fiscales ces dernières années ?
Les niches fiscales, c'est lié un petit peu à la rigueur budgétaire qui fait que on ne peut plus pour limiter le déficit et pour faire moins de subventions directes, on est passé plutôt par un mécanisme, le mécanisme de la dépense fiscale. Donc c'est vraiment quelque chose de comptable, si vous voulez, qui fait que de plus en plus, au lieu de faire une subvention, on crée ce que la Cour des comptes va appeler une dépense fiscale et ce que communément on appelle une niche fiscale.
Une exonération d'impôts, un taux réduit, une franchise en deçà d'un certain seuil, une déduction de dépenses particulières, un abattement en pourcentage de l'impôt, une demi-part supplémentaire. Tout ceci, ce sont des dépenses fiscales. D'après le dernier projet de loi de finances, au total, ça représente 92 milliards d'euros non perçus. À croire qu'on l'a fait exprès.
Toutes ces niches fiscales ont cette histoire qui est liée un petit peu à la rigueur budgétaire et bénéficient surtout à certains publics qu'on pourrait mettre complètement en parallèle de ce qu'on appelle les bénéficiaires des minima sociaux pour réintroduire un petit peu de balance et réfléchir finalement à l'équilibre global du système qui contribue et qui reçoit. Sur les questions d'optimisation, où il y a aussi, vous avez raison, des niches fiscales, mais il y a des baisses d'impôts qui ont été également concédées. Là, on est pour moi sur une politique assez franche de l'État qui consiste à dire il y a une menace qui est celle du départ des capitaux et des personnes hors de France, qui a toujours été assez peu étayée dans les faits, mais qui est brandi comme une menace et qui fait que c'est venu justifier un certain nombre de politiques qui consistent à baisser systématiquement les impôts sur les plus fortunés.
Bon, à ce stade, on comprend que si beaucoup de foyers fiscaux peuvent être conseillés pour payer le moins d'impôts possible, ce n'est pas un défaut du système, mais un choix politique. Et tous ces gens, rappelez-vous, ne sont pas des fraudeurs. Ils ne sont pas dans l'illégalité. Restent quand même toutes celles et tous ceux qui tentent d'échapper à l'impôt de manière plus maladroite, pourrait-on dire. En fraudant. Le paradoxe, c'est que plus la fraude est d'un montant faible, mieux on la repère et on la sanctionne. Ça tient à la nature des revenus en jeu, comme l'a montré Alexis Spire. Si vous fraudez sur des prestations sociales, en mentant sur votre nombre d'enfants à charge, ou en oubliant de déclarer que vous avez retrouvé un emploi, par exemple, vous vous exposez à des contrôles de la part des administrations qui vous délivrent ces prestations. Et elles savent tout de vous. Votre situation familiale, professionnelle, si vous avez déclaré des heures de travail le mois dernier, où et combien, avec quel type de contrat, etc. Quand on est pauvre, on a l'habitude de faire face à un tas d'institutions qui surveillent de très près vos revenus, vos dépenses, votre agenda et vos relations. C'est même la définition de la pauvreté, selon Georg Simmel. Non pas tant un niveau faible de revenus, mais le fait d'être pris en charge et traité comme pauvre par des institutions dédiées. Les contrôles sur les revenus et les frais des bénéficiaires de prestations sont largement automatisés de nos jours. Bref, c'est bien plus facile de contrôler les faibles revenus de millions de pauvres que d'engranger des recettes fiscales sur les successions ou les patrimoines les plus élevés. Les recherches en économie dont je vous parlais en introduction font cependant apparaître que la tendance à sous-déclarer ses revenus, quand on le peut, est assez uniformément répartie. On peut même faire des expériences là-dessus. On donne un revenu à des individus qui doivent ensuite le déclarer, sachant qu'ils échapperont à l'impôt s'ils ne déclarent pas tout. J'en ai parlé avec Nicolas Jacquemet.
Alors, on utilise une méthode qu'on appelle, avec un mot un peu pompeux, une expérience en laboratoire en économie, mais qui est en fait une technique assez simple qui consiste simplement à inviter des gens qui sont volontaires à venir prendre des décisions selon des règles qui leur seront décrites et dans une situation où leur rémunération pour la participation à l'expérience dépendra des décisions qu'ils ont prises dans l'expérience. Une des expériences qu'on peut faire facilement, c'est un jeu de simulation fiscale où on va proposer aux gens de gagner un revenu et puis ensuite de déclarer le montant de revenu qu'ils ont gagné en sachant que le montant de revenu qu'ils vont déclarer sera taxé et donc sera prélevé de leurs gains pour en faire différents usages. La manière dont on donne du revenu aux participants est très variable suivant les expériences. C'est d'ailleurs une dimension qui a été étudiée dans le cadre des travaux en économie comportementale sur l'évasion fiscale.
Résultat de cette expérience.
Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on observe une corrélation proche de zéro entre l'évasion fiscale, telle qu'elle est mesurée dans le laboratoire, et le niveau de revenu. Et ce, non seulement dans nos propres travaux, mais dans la plupart des travaux qui ont été réalisés sur le sujet, sur la base d'une étude qui a été réalisée par Antoine Malézieux, qui met ensemble les résultats de toutes les expériences en laboratoire qui ont été réalisées dans le passé, qui sont suffisamment proches les unes des autres pour être comparé, et qui permet de constituer un méta-échantillon d'expérimentation permettant d'observer les comportements d'évasion fiscale et qui conclut à une absence de corrélation entre le niveau de revenu et le montant de la déclaration.
Et si on regarde dans le détail, on constate d'autres surprises. Seul un quart des participants déclarent l'intégralité de leurs revenus et le taux de déclaration moyen est de 49%. Pas génial. Il n'y a pas de profil type de fraudeur. Les caractéristiques socio-démographiques, âge, revenu, genre et diplôme, jouent un rôle assez faible dans la décision de frauder. Les hommes sont tout de même 6% de plus que les femmes disposées à sous-déclarer.
Je suis choqué. Choqué.
On ne trouve pas non plus de personnalité type de fraudeur si on fait passer des tests de personnalité aux mêmes individus. Ce n'est donc pas une question de malhonnêteté intrinsèque. En revanche, les conditions dans lesquelles la fraude est possible ou pas, et les sanctions auxquelles elle donne lieu ou pas, sont déterminantes. Typiquement, le niveau de probabilité d'un contrôle influence peu les décisions de fraude, mais l'existence d'un contrôle la réduit de 30 à 40 points. Et ça nous permet d'aborder un dernier point, qui conclura cet épisode. Comment faire pour réduire les stratégies de contournement de l'impôt? Le premier élément qu'on peut tirer de cette expérience, c'est qu'il suffit que les contribuables sachent qu'il existe des contrôles, même peu fréquents, pour qu'ils fassent plus attention à leur déclaration d'impôt. Si vous risquez une amende de 4 000 $ dès que vous jetez un papier par terre, la police n'a pas beaucoup de contrôles à effectuer pour que vous évitiez de le faire. C'est le cas à Singapour, l'une des villes les plus propres et les plus dures avec les délinquants. En augmentant le montant des redressements, on lutterait donc efficacement contre la fraude fiscale et sociale. La deuxième chose mise en évidence par les travaux d'économie expérimentale, c'est que pour la fraude liée à une sous-déclaration volontaire, une grosse partie de la solution tient à l'engagement des contribuables. Je donne de nouveau la parole à Nicolas Jacquemet.
La notion d'engagement qu'on utilise dans nos travaux, qui vient de la psychologie sociale, c'est vraiment l'idée que les décisions qu'on prend dans le passé nous conduisent à nous comporter différemment dans le futur. De telle sorte que si j'obtiens des gens qui prennent certaines décisions, le fait même d'avoir pris cette décision va les conduire dans une large mesure à se comporter différemment dans le futur. Le mécanisme d'engagement qu'on étudie dans l'expérience, mais qu'on étudie comme une espèce d'instrument expérimental pour étudier l'effet de l'engagement sur les comportements de fraude dans l'expérience, c'est un serment à dire la vérité que les participants se voient proposer de signer avant de participer à l'expérience de fraude fiscale, et qui correspond à ce qu'on appelle en psychologie de l'engagement un acte préparatoire, c'est-à-dire une situation de choix qui, si on accepte de signer le serment en l'occurrence, va nous conduire à nous comporter différemment dans le cadre de l'expérience.
Si votre voisin de plage vous demande de veiller sur ses affaires et qu'un voleur lui pique sa serviette, il y a 9 chances sur 10 pour que vous interveniez. De même, si on fait remplir une déclaration sur l'honneur aux contribuables avant qu'ils signent leur déclaration d'impôt, eh bien ça les incite à être plus soucieux de l'intérêt général. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vecteur puissant de réduction de la fraude volontaire. Bien sûr, on ne viendra pas à bout de toute la fraude fiscale ainsi. Mais au moins, on décourage ceux qui hésitent à frauder ou pas. Mais ces deux derniers points ne s'attaquent pas aux stratégies de contournement à la frontière de la légalité. Camille Erlin Giray.
Mais il me semble que tant Alexis Spire que Vincent Drezet qui ont travaillé sur cette question, ont plutôt montré qu'on allait dans le sens d'une réduction des effectifs alloués à ce type de contrôle de la fraude et qu'on n'allait pas du tout, en tout cas, dans le sens d'une augmentation de moyens, d'une informatisation systématique comme on a pu le faire pour les toutes petites fraudes. Enfin, voilà, qu'on n'allait pas du tout dans le sens d'un contrôle accru. Et ça va de pair avec cette rhétorique politique hein, qui est qu'on va plutôt privilégier la négociation, on va plutôt privilégier les personnes qui, de bonne foi, entre guillemets, vont reconnaître certaines fraudes et donc derrière refaire rentrer de l'argent sans les taxer trop parce qu'elles ne les auraient pas déclarées, par exemple, avant. Donc, on a plutôt une rhétorique politique qui va dans le sens d'être assez conciliant, en fait, et qui ne va pas forcément de pair avec l'idée qu'on va mettre des moyens humains et techniques sur le contrôle de ce type d'affaires.
C'est une conclusion assez triste, finalement. Il y a peu de moyens pour faire entrer davantage de recettes fiscales dans les caisses de l'État et dans celles de la Sécu, parce que ce n'est pas une priorité politique. Laissez tranquille les foyers fiscaux les plus riches, et même multiplier les opportunités de réduction ou de crédit d'impôt. C'est une option politique. Pourtant, elle est difficilement conciliable avec la déploration d'un déficit excessif et d'un État qui gère mal son argent. Un point sur lequel peuvent quand même s'accorder des libéraux hostiles à l'impôt par principe et des progressistes qui aimeraient voir celui-ci mieux respecté, c'est que le système socio-fiscal français est devenu beaucoup trop compliqué. Le fait même qu'il existe des avocats spécialisés en la matière est l'indice d'un gros problème de transparence et d'équité. Dans le meilleur des mondes, ça devrait être un sujet pour la prochaine campagne électorale. Mais visiblement, c'est pas pour tout de suite. Splash est une émission de nouvelles écoutes. Elle est présentée et écrite par moi, Emmanuel Martin. Production et réalisation, Marine Rowe. Mixage, Adrien Beccaria à l'arrière-boutique studio. Coordination par Mathilde Jeunin.